Voilà, mais écoutez, comme vous le savez, nous sommes entre deux séries, car j'avais, il y a quelques semaines en arrière, terminé l'Épître aux Romains. Et alors, j'aime bien profiter parfois... Merci, Solofo. J'aime bien parfois profiter de ces entretemps pour apporter quelque chose de différent, apporter des messages clés, des messages parfois que j'ai déjà donnés, mais qui me semblent importants de ramener de temps en temps. Et donc aujourd'hui c'est le cas, nous passons d'une année à l'autre, nous terminons une année, nous allons dans deux jours entamer une nouvelle année, et il m'a semblé bien cette semaine et opportun de vous parler de notre plus grand ennemi. Oui, de notre plus grand ennemi, afin qu'en révisant les nombreuses bénédictions de l'année passée, et Dieu sait combien il y en a eu, de nous rappeler que notre travail, et surtout celui de notre vie chrétienne et de notre travail d'église, déplaît fortement à notre plus grand ennemi. Mais alors pourquoi ce message aujourd'hui, spécifiquement ? Bien récemment, j'ai passé par une petite période de découragement, peut-être c'est quelque chose que vous connaissez de temps en temps, je pense que ça arrive à tout le monde, et je ne savais pas trop pourquoi. Alors bien sûr, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la fatigue, ça peut vraiment jouer des drôles de tours sur la vie, d'accord ? Ensuite, je me suis dit, c'est peut-être un péché dans ma vie, donc j'ai fait l'analyse de ma vie pour voir s'il y avait quelque chose non confessé dans ma vie. Puis un soir, j'étais en insomnie, ça vous arrive aussi ? 3h du matin, j'étais réveillé, ping, comme ça. Et je me suis dit, tiens, alors je commence à réfléchir, tiens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis sorti du lit, je suis descendu, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. Et tout d'un coup, comme un flash, c'est comme si une lumière s'est allumée dans ma pensée. Je me suis dit, mais et si c'était Satan? Si tout simplement Satan me jouait des tours? Peut-être c'est Satan qui cherchait à me décourager. Alors immédiatement, j'ai commencé à lire dans la Bible les textes liés à Satan. Et c'est vraiment, c'était physique. C'est que immédiatement, le fardeau m'a quitté. C'était assez génial. Et donc, ça m'a fait penser à ce message, au message que j'ai déjà donné. Mais qui m'a beaucoup encouragé, et j'espère vous encourager aussi aujourd'hui, en passant d'une année à l'autre. Donc voici le titre du message, et ce n'est pas le mien même, j'ai un ami qui l'a prêché il y a des années en arrière, et donc je me suis inspiré de lui, donc je lui donne crédit, il s'appelle Steve Lawson. Voici le nom du message, le titre que j'ai donné à ce message, « Sept vérités sur Satan ». Sept vérités sur Satan, et notre texte se trouve dans Job chapitre 1, donc je vous invite à y aller avec moi. Job chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 1. Job 1 et le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait, sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Écoutez maintenant. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Waouh ! Ça, c'est un texte, mes amis. En effet, ce matin, j'aimerais nous parler de notre plus grand adversaire, Satan. J'aimerais vous montrer à partir des Écritures qui il est, comment il opère, ses tactiques, afin que nous puissions comprendre comment il déchaîne sa puissance étonnante contre nous. Alors bien sûr, beaucoup de nos jours, aimeraient nier son existence. Le problème, c'est que les Écritures nous parlent abondamment de lui. La Bible décrit Satan, notre adversaire, en termes réels et non imaginaires. En fait, il décrit en termes réels dans 7 livres dans l'Ancien Testament et dans tous les livres du Nouveau Testament et par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le diable est très réel et non simplement un être imaginé par quelqu'un. En fait, la Bible lui donne beaucoup de noms. Par exemple, Lucifer, Béelzébul, Bélial, le malin, le diable, le tentateur, le prince de ce monde, le dieu de notre ère, le prince des puissances, l'accusateur des frères, le vieux serpent, le grand dragon, un lion rugissant, Apollyon et bien d'autres termes encore. C'est intéressant que le diable est identifié comme un meurtrier, comme un menteur, comme un pécheur, comme un tentateur, comme un pervers, comme une contrefaçon et comme un opprimeur. Portrait pas très joyeux, je trouve. En fait, Satan est décrit comme le mal personnifié. Aujourd'hui donc, j'aimerais vous parler de 7 vérités sur Satan. Je pense qu'il est important dans notre vie chrétienne de nous rappeler que nous avons un adversaire. Il faut, hein, on le dit bien, il faut bien connaître son ennemi. Excusez-moi, j'ai un truc là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, aujourd'hui donc, j'aimerais vous présenter ces 7 vérités sur Satan. Et c'est vrai qu'il est important, nous que chrétiens, de connaître notre plus grand adversaire. Il faut connaître notre ennemi. Alors, pas le connaître personnellement et intimement, mais il faut connaître ses tactiques, savoir comment il agit. Ceux qui ne connaissent rien de lui sont dans un extrême danger d'être, nous dit la Bible, dévorés. Alors, dans le premier chapitre de Job, c'est un chapitre en fait assez troublant, il faut dire, car c'est comme s'il y a un rideau qui s'enlève afin que l'on puisse voir ce qui se passe un instant dans le monde céleste. Oui, il y a une sorte de rideau qui est tiré, et pendant quelques instants, nous avons une sorte d'une vision, nous voyons le monde invisible du ciel, et l'effet que le ciel a sur la terre, sans que nous puissions d'habitude le voir et l'apercevoir. C'est dans ce chapitre où nous voyons Dieu, Job, l'homme, mais aussi Satan. Et nous voyons ici une vision rare de l'activité de Satan dans le monde et sur la vie des hommes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que nous sommes en fait engagés dans une guerre invisible. Il y a une guerre entre Dieu et Satan, entre le ciel et l'enfer. Notre ennemi est vraiment réel, il est surnaturel, il est puissant, il est malin. Ce n'est pas une guerre neutre. Nous sommes d'un côté ou bien de l'autre de cette guerre. Nous appartenons ou bien à Dieu ou nous appartenons à Satan. Il n'y a pas de neutralité. En fait, la guerre est tellement rude que nous avons été donnés, selon Éphésiens 6, une armure spéciale, chacun de nous, pour pouvoir nous protéger et combattre dans cette guerre. Donc, si c'est le cas, Il est important que nous connaissions qui est notre ennemi et voir comment il s'y prend pour faire tant de mal dans notre monde et comment il fait pour nous attaquer. Alors, bien sûr, ça ne va pas être exhaustif, on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais dans Job chapitre 1, nous apprenons 7 vérités capitales sur Satan, et ça c'est vraiment un bon endroit pour commencer, d'accord ? Donc on va voir 7 vérités sur Satan. Alors on les prend une après l'autre. Numéro 1. Satan est un être angélique. Satan est un être angélique. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors ce verset est intéressant. Or, les fils de Dieu vinrent un jour, voilà. Un jour, comme tant l'autre jour dans la vie, un jour totalement ordinaire dans le ciel. On ne sait pas de quel jour il s'agit, c'est un jour. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être dans une semaine, ou dans un an, ou dans 10 ans. Un jour. Il est dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Alors, qui sont ces fils de Dieu? Ce sont des anges, des êtres surnaturels, créés par Dieu pour qu'ils servent les hommes. La phrase est utilisée à d'autres reprises pour décrire les anges, comme dans Job 38:7 par exemple. Alors qui sont les anges? Ce sont des êtres créés par Dieu, ils sont plus bas que Dieu, mais supérieurs aux hommes dans leur force et dans leur intelligence. Apocalypse 5:11, et ça c'est toujours un truc qui m'impressionne. Apocalypse 5:11 nous dit « Je regardais, j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Donc il y en a vraiment beaucoup. Ils sont organisés de manière stratégique. Ce jour-là, dans Job, comme tous les jours, les anges se présentent devant l'Éternel pour recevoir de lui ses ordres. Ils sont soumis au Seigneur, nous dit la Bible, et lui obéissent parfaitement. Alors ils font quoi exactement les anges? Mais ils existent pour servir le Seigneur dans le monde, certes, mais dans l'univers et surtout au ciel. Le psaume 103:20, par exemple, nous en parle. Je vais vous le lire. Le psaume 103:20 qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc ils exécutent ses ordres. Et nous apprenons dans Matthieu 18 et dans Hébreux 1 qu'il y a même des anges gardiens, des anges qui sont là pour nous aider, nous garder, invisibles certes. Alors regardez au milieu du verset 6. Il est dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Enfin, la fin du verset 6, et maintenant, c'est cette phrase incroyable. « Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » La raison pour laquelle il vient aussi au milieu d'eux, et c'est parce qu'il est aussi un d'eux. Satan est un ange, un être angélique. En fait, il fut une fois l'ange brillant, un génie, l'ange peut-être le plus saint, si on peut le parler comme cela, le plus haut. Mais il est devenu un ange déchu. Un jour, bien avant que la terre et notre monde existent, Satan ou Lucifer, qui est son nom, décida de se rebeller contre Dieu par orgueil, insatisfait de son rôle, il voulait tout simplement être comme Dieu. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, il est dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, et beaucoup de gens pensent que ceci est une référence à la chute de Satan. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, il voulait être comme Dieu. Il était insatisfait de son positionnement en tant qu'ange. Il voulait être comme Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et Apocalypse 12, 3 semble indiquer qu'il aurait pris avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons. Apocalypse 12, à partir du verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et on sait qu'il parle de Satan, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, cet ange, Lucifer, s'est un jour rebellé contre Dieu car il était insatisfait de son rôle, de sa position. Il voulait être comme Dieu, voire être Dieu. Il a péché, il s'est rebellé contre Dieu et il a entraîné avec lui un tiers des anges qui sont aujourd'hui appelés des démons. Donc ça, c'est le premier point. La première chose que nous apprenons sur Satan, c'est que Satan est un être angélique. Deux. Satan a accès direct auprès de Dieu. Incroyable, au verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Écoutez, franchement, c'est une chose étonnante. Satan fut chassé du ciel lorsqu'il a péché, et pourtant, il a accès au ciel en tant qu'ange déchu. Mais non seulement a-t-il accès au ciel, il a apparemment accès à la chambre du trône de Dieu, là où est Dieu. Comment est-ce possible, demandez-vous? Comment le péché peut-il demeurer dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu totalement saint, dans le ciel, qui est aussi saint? Alors, c'est une énigme, hein, moi je vous la montre clairement. Habacuc 1, 12 dit ceci, « N'es-tu pas de toute éternité parlant de Dieu ?»« Éternel, mon Dieu, mon saint ?» Verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Donc d'un côté, on apprend que Dieu est saint, il ne peut pas regarder l'iniquité, on a l'impression que l'iniquité ne peut pas rentrer dans sa présence, mais ici, Satan, qui est la personnification de l'iniquité, rentre dans sa présence. Comment Dieu peut-il permettre cela? Eh bien, je vous donne ma réponse. J'en sais rien. Je ne comprends pas. Je n'ai pas la réponse. Et comme j'ai souvent dit, quand je ne connais pas la réponse, je vais toujours au même verset. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a certaines choses qu'on ne comprendra jamais. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas Dieu. Et notre intelligence est limitée. La révélation qu'il nous a donnée, elle est dans ce livre, elle est ici, dans la parole de Dieu. Tout n'est pas précisément marqué. Donc je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi Dieu permet à Satan de rentrer dans sa présence, mais il le fait. Ça, c'est une certitude. Satan a accès direct à Dieu. Mais que fait-il dans la présence de Dieu? Pourquoi? Pourquoi il y va? Bien, son nom nous révèle peut-être la réponse. Satan veut dire accusateur. Oui, il va dans la présence de Dieu pour accuser les saints, accuser ceux qui connaissent Dieu personnellement par son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous apprenons dans Apocalypse 12 et le verset 10. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et verset 10, « Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Satan va devant Dieu pour nous accuser. Voilà ce qu'il fait. Pour nous attaquer, pour nous diffamer. Et il veut essayer de convaincre Dieu en pointant le doigt à nous que notre vie n'est pas conforme. Que notre conversion n'est pas authentique. Qu'on est des nuls en fait. Et que même si mon péché il est pardonné, lui va tout faire pour essayer de remonter ce péché, de le mettre devant nous et de nous montrer, ouais, tu te dis être pardonné par le sang de Jésus-Christ, mais regarde ta vie. C'est facile d'accuser quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Mais, mes amis, heureusement qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Il est là aussi, présent dans le ciel, assis à la droite du Père, nous dit la Bible. Il est notre avocat, nous dit 1 Jean. Et chaque fois qu'une accusation est lancée contre nous, Jésus dit « Payez, payez, payez. » Il est pécheur, payez. Regarde ce qu'il est, ce qu'elle fait, payez. Par mon sang, payez. Heureusement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Trois. Satan rôde sur la terre pour voir qui il peut dévorer. Satan rôde sur la terre pour voir qui il peut dévorer. Job 1 et le verset 7. L'Éternel dit à Satan, donc là ils sont là au ciel, ils discutent, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est des versets incroyables. Satan dit, je parcours la terre et je m'y promène. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se promène sur la terre, Satan? C'est invisible, bien sûr, il est invisible. Eh bien, il veut trouver ceux qu'il pourrait dévorer et détruire. Regardez 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan, c'est un lion qui a faim. Et il veut dévorer des gens. Voilà ce qu'il veut faire. Alors c'est intéressant ce dialogue, n'est-ce pas? L'Éternel parle à Satan. D'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. Alors, soyons plus spécifiques. Où sur la terre se promène-t-il, Satan? Ben, sur toute la terre. Allez, on va lister des pays, d'accord? En Chine. Au Pérou. En Russie, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en Angola, aux États-Unis, en Suisse, à Genève, à la Praille, à l'Event Center. Ben oui. Est-ce que c'est exagéré ce qu'on est en train de dire là? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste. Jean 12, 31, nous dit ceci en plus. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a une certaine puissance, Satan. Alors voilà, Satan se promène sur la terre. Vous savez quoi? Il renifle notre odeur. Il est sur notre chemin. Derrière nous, proche de nous, il nous traque. Il cherche le bon moment pour nous dévorer. Alors, quel pouvoir a-t-il vraiment sur nous? C'est une grande question. Alors, ma première réponse se trouve dans Matthieu 25, et le verset 41. Jésus dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors nous savons, et Satan sait aussi, qu'il a déjà été condamné à l'enfer. L'enfer, au fait, a été créé pour Satan et pour ses démons. Hein. Et ceux qui refusent d'être pardonnés par Jésus-Christ iront avec Satan et ses démons dans cet endroit du feu éternel de l'enfer. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on sait que Satan est condamné à l'enfer, mais il n'y est pas encore. Donc, il a encore un certain pouvoir sur terre. Alors, que fait-il ? Oh, il fait un tas de trucs. Par exemple, je vous donne quelques exemples de ce qu'il fait sur la terre en rondant et une manière qu'il essaie de dévorer les gens. Premièrement, il aveugle l'intelligence. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, écoutez bien, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors voilà, vous savez, vous avez déjà eu l'occasion, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, et puis c'est comme ça, c'est comme s'ils ne comprennent rien de ce que vous dites, quoi. Ben, ça peut être, dans ce cas, Satan qui aveugle l'intelligence de ces personnes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Alors que faire, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et donc, la manière de désaveugler quelqu'un, c'est de continuer à prêcher l'évangile. Mais voilà, donc il a un pouvoir d'aveugler l'intelligence pour faire que certaines personnes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Tu dis, mais je ne comprends pas, John. Moi non plus, je ne comprends pas, mais c'est ce que la Bible dit. Il a un pouvoir là-dessus. Autre chose qu'il a comme pouvoir, c'est incroyable, quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, Matthieu 13, 18 nous en parle. Il est dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, donc Satan, vient et enlève ce qui était semé de son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Satan a le pouvoir, je ne comprends pas comment non plus, de prendre une parole, la parole, l'évangile semé dans un cœur et l'enlever. Bien sûr, sous la permission et la souveraineté de Dieu. Ça, on y reviendra dans quelques instants. C'est un pouvoir incroyable. Il a aussi le pouvoir de mener les hommes dans l'immoralité sexuelle. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, 5, parlant à un homme et une femme, des gens mariés, ne vous privez point l'un de l'autre, donc contexte sexuellement, si c'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Lorsque quelqu'un cède à l'immoralité sexuelle, ça peut être une tentation directe de la part de Satan. Ça, c'est une manière facile et rapide de faire chuter quelqu'un. Étonnant, il peut encore répandre des fausses doctrines. 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, tenez-vous bien, et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines qui sont démoniaques. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'écouter la doctrine de Dieu, mais écoute des doctrines autres, et là, des doctrines de démons. Alors, tenez-vous bien, non seulement y a-t-il des doctrines de démons, mais il y a même ce que la Bible appelle, dans Apocalypse 2.9, tenez-vous bien, des synagogues de Satan. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous savez, Satan est super organisé, quoi. Il a des doctrines, des synagogues, des groupements. Il fait des ravages sur terre. Et dans Apocalypse 13, nous savons aussi qu'il a le pouvoir de provoquer des persécutions contre les chrétiens. Et ça, on le verra avec l'Antichrist à la fin des temps. Tout influencé par Satan. Donc, ça c'était le troisième point, vous voyez. Satan rôde sur la terre pour voir qui il peut dévorer. Quatre. Ouf. Heureusement que le quatrième point est là. Satan est limité par la souveraineté de Dieu. Satan est limité par la souveraineté de Dieu. On retourne à Job 1 et le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » N'oublions jamais, mes amis, même si on a un peu peur là, en écoutant tout ça, tenez-vous bien, c'est vraiment génial, il n'y a qu'un souverain, Dieu. Dieu, c'est Dieu. Satan n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu utilise Satan pour ses fins. Martin Luther a dit ceci, c'est très célèbre, « Même Satan est le Satan de Dieu. » Oui, Satan a des pouvoirs, mais Satan est un être qui a été créé par Dieu. Lucifer est une création de Dieu, un ange déchu qui a beaucoup de pouvoirs, mais jamais à l'extérieur de la souveraineté de Dieu et de la permission de Dieu. Il est une créature et donc inférieur à Dieu. Il ne peut rien faire à l'extérieur de la volonté de Dieu. Et notez quelque chose d'hyper important ici. Qui commence la discussion entre Satan et Dieu ici? Vous avez vu? Au verset 8? C'est Dieu. C'est Dieu qui initie la conversation avec Satan. C'est Dieu qui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais pourquoi? Pourquoi? Ben la raison nous est donnée au verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. La raison que Dieu parle à Satan de Job, c'est parce que Job va bien. Job va bien. Tout va bien dans sa vie. Écoutez ce que nous dit le verset 1 de Job 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était quoi ? Intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Écoutez, Job était un homme de Dieu, un homme irréprochable dans sa vie, apparemment dans tous les domaines. En fait, regardez même ce qui se dit au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Non, verset 9. Verset 8. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu pense et affirme que Job, écoutez bien, est le croyant le plus mature et le plus fort, le plus spirituel de toute la planète. Parmi tous les pays du monde que Satan visite, Job, c'est le top du top. C'est pas rien. Imaginez de dire ça de quelqu'un. Quand c'est Dieu qui le dit. Tout va bien chez Job. Intègre, droit, il craint Dieu et il s'écarte du mal. Vous savez, là, il y a une leçon, mes amis, mais qui sort, qui crie ici. Et voici la leçon. Celui qui est intègre en Christ n'est pas épargné des attaques de l'ennemi. Simplement parce qu'on va bien, que spirituellement ça va bien, que vous êtes béni, ne veut absolument pas dire que vous allez protéger des attaques de l'ennemi. Il y a un mouvement dans la chrétienté, j'en ai déjà parlé, qui préconise que si tu marches de manière droite et intègre avec le Seigneur, qu'il te bénira, que tu deviendras riche, prospère et qu'il te guérira si tu es malade ou si tu es infirme. Mais alors là, ça ne colle pas du tout avec Job. Job était le chrétien le plus intègre, le plus droit au monde, et pourtant il a subi peut-être une des plus grandes épreuves qu'un homme puisse subir dans le monde. Et ça, en un coup, en un jour. Alors ça, je trouve absolument fabuleux de me rappeler que Satan est limité par la souveraineté de Dieu. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et ouais, c'est pour ça que je suis content et je remercie le Seigneur que je connais Christ. Parce que Christ est bien plus fort que Satan. Même si Satan a un pouvoir d'attaque impressionnant dans nos vies. 5. Satan est malin et pernicieux ou dangereux. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voyez-vous, Satan rebondit sur ce que dit Dieu et pense avoir trouvé la manière de détruire Job et donc de le ridiculiser Dieu dans le propos qu'il vient d'énoncer concernant Job. Hein, Job vient de dire, mais regarde, mon serviteur, c'est l'homme le plus droit du monde. Satan dit, moi je vais te montrer. Alors là, Dieu, je vais te montrer que tu as tort. Satan attaque Job de plein front. Il lui lance comme une boule de neige, mais dans la boule de neige, il y a une pierre. Satan attend ce moment depuis longtemps. Quel meilleur candidat à la destruction que l'homme le plus droit de tous les hommes? Satan n'est pas bête. Il sait pertinemment que détruire le plus droit, le plus mature, le plus intègre, cause le plus de dégâts. Son opportunité est parfaite. Tu détruis Job, t'es gagnant. Satan dit à Dieu, voici son argument. La seule raison que Job te sert ainsi, Dieu, qu'il est droit et intègre, Dieu, qu'il te craint et qu'il s'écarte du mal, Dieu, c'est parce que tu l'as béni et que tout va bien dans sa vie. Réveille-toi, Dieu. Job, dit Satan, est un de ces chrétiens qui va bien parce que tout va bien dans sa vie. C'est un de ces chrétiens du dimanche qui est heureux le dimanche parce que tu l'as béni. Alors, est-ce que Dieu l'a béni? Ben oui, on l'a lu tout à l'heure. Verset 2, 7 fils, 3 filles, 10 enfants, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, très grand nombre de serviteurs. Une richesse extraordinaire. En plus, il anticipait le péché de ses propres enfants. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Au verset 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Il demandait pardon pour l'éventualité du péché de ses enfants. C'est génial ça. Il anticipe. Il reconnaît la faiblesse humaine. Et ça, c'est une coutume d'agir. Il priait régulièrement pour sa famille. Si vous voulez encore voir l'autre portrait, le portrait continu de Job, il faut aller au chapitre 29. Là, il se décrit, il fait l'analyse après son épreuve. Verset 7, il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, si je me faisais préparer un siège dans la place, il décrit le genre de vie qu'il avait avant. Il était très, très connu dans la ville. Il avait une place de haute distinction. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient, se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Il réalise que quand il marchait dans la ville, les gens s'arrêtaient pour honorer cet homme que Dieu avait béni. Car je savais, je sauvais le pauvre qui implorait de secours, verset 12, et l'orphelin qui manquait d'appui, donc il était généreux, il aidait les pauvres. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve, il aidait les veuves. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements, j'avais ma droiture pour manteau et pour turban, etc. Non mais attendez, voilà. Tout le monde aurait voulu avoir Job comme ami. Mais oui. Alors c'est ce qu'il dit Satan. Les gens comme Job t'adorent de manière intéressée parce que tu les as bénis, Dieu. En fait, Satan dit à Dieu qu'il est en train d'acheter l'adoration de Job. En le bénissant. C'est fou, hein? Tu as créé un mur de protection autour de cet homme. C'est normal qu'il te bénisse et qu'il t'adore. Verset 11. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Sa tactique est brillante. N'oublions pas que Satan est un menteur et le père du mensonge. Donc ce Samuel au point 6. Satan a un pouvoir prodigieux sur les circonstances. Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Incroyable. Dieu dit à Satan, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui, ne tue pas cet homme. Cela veut dire que Satan avait, à partir de ce moment-là, un pouvoir total sur les biens de Job, sur ses biens physiques, mais aussi relationnels, sur sa famille. Et en regardant maintenant ce que Dieu a autorisé Satan d'agir, il faut se poser la question personnelle, combien de fois ai-je, moi, été attaqué de cette manière par Satan sous la pleine autorisation de Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Intéressant que ici Dieu donne à Satan le pouvoir de faire venir un peuple étranger pour tuer les serviteurs de Job. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé le petit bétail, les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Ici, Satan a le pouvoir sur la météo, sur les éclairs du ciel. Hein? Un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé le bétail. Satan avait le pouvoir là-dessus, c'est incroyable. Verset 17, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés de trois bandes se sont précipités sur les chameaux et enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Ici, Satan organise un vol d'animaux. Et il parlait encore, verset 18, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient d'un vin dans la maison de leur père aîné, de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Satan a le pouvoir sur le vent pour détruire une maison et tuer les 10 enfants de Job d'un coup. Mais allez voir, imaginez. Vous perdez vos 10 enfants d'un coup. Et ça, avec l'autorisation de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui se passent là-haut, mais on comprend vraiment pas. Hein. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est que j'ai l'impression d'être tout, tout petit. Là. Je me dis, John, écoute... Tu sais tellement peu, quoi. Des fois, on se prend pour des gens, hey, moi, je connais les choses. Non, mais allez voir, vous regardez ce qui se passe là-haut. Oui. Et avec effet ici. C'est incroyable. Vous savez quoi? Tous ces drames, apparemment, se sont passés, si on fait la chronologie des choses, en une période de quelques minutes. C'est comme, vraiment, si on analyse tout ça en détail, ces coureurs sont venus, tuc, 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 tuc. En quelques minutes, Job passe de tout avoir jusqu'à rien avoir. Tac, comme ça. C'est fou, hein? 7. Ouf, heureusement que le point 7 est là. Satan est vaincu par notre foi. Le verset 20 et 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, on n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Alors ça ne veut pas dire que ce n'était pas dur sur la vie de Job. Tout le livre de Job, il essaie de comprendre. Il ne faut pas oublier que Job ne sait pas ce que nous on sait. Nous on a le chapitre 1, lui il ne l'a pas. Nous, on sait déjà ce qui s'est passé dans le ciel avant qu'on voie le malheur contre Job. Lui ne sait rien de tout ça. Lui, paf, d'un coup, il y a tout qui se déchaîne sur lui, il n'y comprend rien. Il ne sait pas ce qui s'est passé là-haut. Il ne sait pas qu'il y a eu un dialogue entre lui et Satan, entre Dieu et Satan. Il ne sait pas que Dieu a autorisé ces drames dans la vie de Job. Non, il ne sait pas. Et là, on a l'impression que Job se tient devant ses 10 tombes fraîches. Le monde s'est brusquement arrêté pour lui, ce jour-là. Et c'est pas fini, parce que chapitre 2, verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, et puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. C'est pas fini. Non seulement il vient de perdre tout ça, mais en plus, maintenant, c'est sa santé qui en prend un coup. C'est incroyable. Et c'est pas tout. Son mariage prend un coup aussi. Verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » On peut presque la comprendre. Ils n'ont pas l'information que nous avons. Et ce qui est merveilleux avec le verset 21 et 22 du chapitre 1, c'est que Satan veut entendre qu'une chose. Qu'est-ce qu'il veut entendre ? Il veut entendre Job maudire Dieu. Voilà ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il veut entendre Job maudire Dieu, se tourner contre Dieu. Qu'il avait béni toute sa vie, toutes ses années de prospérité. Mais je pense que Satan a dû être consterné lorsque Job ne fait en rien ce qu'il souhaite. En fait, il fait le contraire. Job bénit Dieu. Et je pense qu'avec ces paroles majestueuses, sans rien comprendre, moi c'est ça qui me frappe le plus ici. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas. Il perd tout, d'un coup, tac, 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 il perd tout, sa santé, tout, ses enfants, sa richesse, tout. Il ne comprend pas. Et sa seule conclusion, c'est que ben, Dieu est souverain. Dieu a un plan, je ne comprends pas. J'ai aucune raison de le maudire, je suis arrivé nu dans le monde. Tout ce que j'ai eu, c'était une bénédiction. Moi, souvent, je me dis, John, tu mérites qu'une chose dans la vie, c'est l'enfer. Tout ce qui est mieux que l'enfer, c'est une bénédiction. On a le droit à quoi ? Bah, à rien. Tout est de bénédiction. Et Job, un homme mature, c'est ce qui conclut. Dieu est souverain sur les circonstances de la vie. La leçon est flagrante. Dieu ne me promet pas une vie facile. Il ne me doit absolument rien. Je ne mérite de Dieu rien du tout, sauf l'enfer. Mais il m'a donné la grâce, il m'a donné le salut, il m'a donné toutes les choses que j'ai dans la vie. Je devrais être un adorateur, régulier, même dans l'épreuve, comme Job. Alors, je termine avec ceci. Y a-t-il une manière pratique de réagir lorsqu'on est dans l'épreuve et on ne comprend pas ce qui se passe ? Alors, je vais vous dire comment moi je fais, d'accord ? C'est ce que j'ai fait l'autre jour quand je vous ai dit que j'étais un petit peu en découragement. La première chose que je fais, quand je suis dans l'épreuve, ou j'ai l'impression que les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent, je me pose la question s'il y a un péché dans ma vie. Je me dis, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a créé ce problème ? Je vous donne un exemple. Mon beau-père avait l'emphysème des poumons. Il en est mort, finalement. Ben ça, c'était lié à une mauvaise décision qu'il avait prise dans sa vie, c'est de fumer. Il a beaucoup fumé, et donc il a dû payer les circonstances ou les conséquences de son action. Alors, le Seigneur l'a royalement sauvé à la fin de sa vie, mais il a dû vivre avec les conséquences de sa mauvaise décision. Donc, il y a des mauvaises décisions qu'on peut prendre dans la vie qui peuvent avoir des conséquences néfastes dans notre vie. Donc, quand quelque chose va mal, moi, je demande à Dieu, y a-t-il un péché ? Montre-moi si j'ai péché quelque part, et si oui, je demande pardon, je me repens. Si je dois demander pardon à quelqu'un, je vais le faire, parce que je ne veux pas que Dieu me juge par rapport à mon péché. Ce qu'on sait, selon Hébreux 12, qu'il peut juger, et parfois juge ses enfants. Il les punit pour les péchés. Donc là, je règle le problème. En Corinthiens 11 nous dit que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement peuvent être infirmes et même mourir. Donc on sait très bien qu'il y a des jugements qui peuvent être apportés aux chrétiens. Alors je me dis que maintenant, si j'ai confessé mon péché, l'autre chose, c'est possible que j'ai un problème physique. Hein. Des fois, on peut être en déséquilibre. C'est possible. Hein, trop de café ou je ne sais pas, trop d'autres choses. On mange mal, on dort mal, pas assez. Alors il faut être sûr qu'aussi physiquement tout va bien, qu'on soit plus ou moins équilibré. Des grands coups de fatigue aussi peuvent aussi jouer un coup sur nous. Donc il faut remettre, comme Élie, vous vous rappelez, Élie, il était épuisé, et vraiment c'était mal, il voulait mourir, il était tellement déprimé. Donc voilà, il faut régler le problème physique et régler le problème de péché. Vous voyez, voilà, j'ai réglé tout ça, ça continue. Tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je me dis, ben alors, si j'ai réglé tous ces autres problèmes, peut-être que je suis en train de subir une épreuve jobienne. Peut-être qu'elle vient de Job. Pas de Job, qu'est-ce que je dis? Non, elle vient pas de Job, elle vient de Satan, autorisée par Dieu, mais c'est une épreuve jobienne. Alors, si c'est le cas, que faire? Je vous donne 6 choses simples et pratiques à faire au cas où c'est Satan qui attaque. D'accord? Numéro 1. Préparez-vous avant l'attaque. Préparez-vous avant l'attaque. Le verset qui m'impressionne le plus dans Job, c'est le verset 1. Parce qu'avant l'attaque, on apprend que Job était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est ça qui a permis que Job loue l'Éternel dans l'épreuve. C'est qu'il était prêt avant l'épreuve. Et donc moi, je dois cultiver ma vie avec le Seigneur pour qu'elle soit bien, juste et droite avant que l'attaque arrive. Donc si aujourd'hui, t'es pas droit avec le Seigneur, ça pourrait être dangereux. Deux, il ne faut pas être dupe et penser que nous sommes l'exception. Ouais, mais tu sais, moi je suis bien en crise, Dieu me bénit, mais c'est pas pour moi ça. Faux, c'est pour tout le monde qui connaît le Seigneur. 1 Pierre 3:8 dit, non, c'est pas 1 Pierre 3:8, c'est 2 Pierre 3:8. Non, qu'est-ce que je dis? 2 Pierre 5:8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, et il parle à des chrétiens ici. Donc, ne soyons pas dupes, si nous sommes chrétiens, Dieu permet parfois à Satan de nous attaquer. C'est comme ça. Satan veut notre peau. Comment faire? Il faut veiller, être sobre. Alors voilà, troisième point, il faut le résister avec une foi ferme. C'est ce que nous apprenons ici. Verset 9 de 1 Pierre 5, résistez-lui avec une foi ferme. Comment? Comment affirmer en notre foi? Je crois qu'il y a 3 manières. La première, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jean 17:17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Nous devons être imbibés de la parole de Dieu. Je pense que deuxièmement, nous avons besoin d'être avec d'autres chrétiens. D'autres chrétiens. Hébreux 10:24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je pense que lorsqu'on est attaqué, d'être avec d'autres qui nous soutiennent, ça nous aide. Et j'ai toujours peur pour les chrétiens qui font du papillonnage entre églises et qui ne s'arrivent pas à s'attacher à une église, parce que le jour où les choses vont mal, ils disparaissent, ces gens-là. Ils n'ont personne pour les aider. Donc, la parole des chrétiens, et troisièmement, drôle à dire, les épreuves. Dieu utilise les épreuves pour nous affermir dans la foi. C'est une drôle de chose à dire, mais c'est vrai. Deutéronome 8:2, des versets vraiment intéressants, dit ceci. Deutéronome 8:2, souviens-toi de tout le chemin de l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant les 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu les pères afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand on est éprouvé, mes amis, on s'accroche à Dieu. Donc, il faut résister avec une foi ferme, parole les chrétiens et les épreuves. 4, il faut décharger nos soucis sur Dieu. 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il faut lancer, redonner tous nos soucis, les amener à la croix. Moi, juste avant ce matin, avant de venir ici, on chantait le dernier chant. J'ai révisé dans ma DG, j'ai dit, Seigneur, que je te donne tout. Je te donne tout, 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 tout est à toi. Prends tout, mes soucis, tout, tout, tout. J'amène tout ça à la croix. Moi, je vais être clean avec Dieu. Quoi. Vous voyez ? 5, il faut mettre l'armure de Dieu. Hein, vous connaissez ce passage dans Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à votre pied le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et sixièmement, mes amis, il faut se rappeler que Dieu est plus grand et plus puissant que Satan. 1 Jean 4:4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel réconfort de savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors voilà, écoutez, moi je suis content d'entamer une nouvelle année là. Je suis tenté. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, on aura un invité, j'espère vraiment que vous allez pouvoir venir, il s'appelle Philippe Viguier, c'est un Français qui fait ses études en Californie, il a déjà prêché ici quelques fois, donc il sera ici avec son épouse et leur petit enfant, et il se demande comment Dieu va les guider pour venir en Europe et en francophonie pour servir le Seigneur, donc je l'ai invité, et il va prêcher dimanche prochain, donc je suis content de l'entendre, et je serai là pour aussi le présenter. Le dimanche d'après, je me demande si je vais peut-être, avant de commencer nos prochaines séries, probablement dans l'évangile de Marc. Je suis assez tenté de commencer l'évangile de Marc, de revenir sur la vie de Jésus. Ça me tente vraiment de parcourir la vie de Jésus, mais juste avant, peut-être que je vais faire 7 vérités sur Dieu. Ce serait pas mal ça, non ? Pour contrebalancer les 7 vérités sur Satan. Et si je le fais, je vais certainement m'inspirer de Genèse chapitre 1. D'accord ? Vous pouvez prier pour ça, mais c'est ce que je suis tenté peut-être de faire. Je viens d'avoir Guy qui m'a fait. Donc peut-être qu'on va peut-être, Guy et moi... Non, mais j'ai bien aimé, c'est le petit signe d'approbation. Donc c'est peut-être une bonne idée. Écoutez, j'en sais rien, mais on va prier, d'accord ? Seigneur, vraiment, nous te remercions pour la Bible. Elle est tellement riche, elle nous apprend des choses tellement pratiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rappelé que nous avons un ennemi, Seigneur. Et on ne veut pas être dupé. On doit se rappeler qu'il veut notre peau, il veut nous attaquer, il veut nous détruire. Seigneur, aide-nous à être forts et à résister avec une foi ferme. Même si tu donnes un immense pouvoir à Satan et qu'il peut nous faire beaucoup de mal, Seigneur, aide-nous à ne jamais permettre que notre foi soit ébranlée. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui ne connaît pas Christ, oh Seigneur, qu'il n'ait pas peur ce matin, mais qu'il réalise qu'en Christ, ils peuvent être protégés de l'ennemi. Même s'il peut les attaquer, Seigneur, en Christ, nous sommes sauvés, saints et saufs, comme Job l'était. Seigneur, à toi la gloire. Et merci pour la nouvelle année que nous allons fêter demain soir, Seigneur. Je te prie que nous puissions être nombreux comme l'année passée, Seigneur, et vraiment te bénir pour tous tes bienfaits de l'année passée et pour tout ce que tu as prévu pour nous pour l'année à venir. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.